Nous allons commencer la séance. Bonsoir à tous. Les bénévoles de l'association JALMA sont heureux de vous accueillir et nous vous remercions de votre présence. Nous remercions la direction et le personnel de l'espace Mendès France qui nous permet de tenir cette conférence ce soir. Monsieur Claes, qui est notre député maire de Poitiers, s'est excusé de ne pas être là ce soir. Le diaporama qui a défilé devant vos yeux nous vous a présenté JALMAF, donc je ne vais pas en rajouter. Seulement préciser que l'association JALMAF Poitiers, c'est une trentaine de bénévoles, dont 20 bénévoles accompagnent les personnes très malades et en fin de vie ou des personnes très âgées. 3 bénévoles accompagnent des personnes en deuil. Je ne vous cache pas que les besoins d'accompagnement sont énormes et nous manquons effectivement de bénévoles et je fais appel aux bonnes volontés. Vous pouvez venir nous rejoindre. Une formation va commencer bientôt, donc il n'est pas trop tard. Mais l'émission de JALMAF, c'est aussi être là ce soir avec vous pour réfléchir sur des thèmes sensibles, difficiles à aborder, tels que la maladie grave, la fin de vie, la mort, le deuil. Ce soir, nous abordons le long mourir. Des maladies deviennent de plus en plus chroniques. Certaines maladies neurologiques dégénératives donnent effectivement des dégradations et des fins de vie longues et difficiles, mais aussi d'autres pathologies, avec les progrès de la médecine, prolongent la vie des personnes, que ce soit des personnes plus jeunes ou plus âgées. Effectivement, chez les personnes âgées, les dégradations au fil du temps sont de plus en plus graves. Et pourtant, ces personnes continuent de vivre. Donc, c'est le thème de la conférence. Que faire et que dire du temps qui reste? Comment accompagner le malade et sa famille dans ce temps qui dure? Comment vivre ce temps qui reste pour lui donner encore du sens? A contrario, nous envisagerons le temps qui manque avec les morts violentes. Je remercie Madame Legrand Sébille, qui est à côté de moi, d'avoir accepté de traiter ce thème. Madame Legrand Sébille est socio-anthropologue, enseignante, chercheure à la faculté de médecine de Lille. Elle se présentera plus particulièrement elle-même et je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Je suis très, très sensible au fait que JALMAF ait, depuis sa création, qui remonte déjà à quelques temps, ce souci de permettre que l'on parle de la mort dans la cité. C'est aussi depuis 25 ans ce qui me préoccupe beaucoup et j'ai donc accepté de tenter de répondre, mais pas de mon point de vue, plutôt, on va le voir, du point de vue à la fois de l'anthropologie et de ce que les humains trouvent comme réponse à ces questions. Donc j'ai accepté que nous réfléchissions ensemble et que je réfléchisse d'abord un petit peu devant vous sur ces différents points. Donc effectivement, que faire et que dire du temps qui reste? Alors moi je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas à dicter aux autres et que il n'y a pas de position surplombante là-dessus. Nous avons pour chacun à réfléchir à ce que nous ferions du temps qui reste et de comment nous souhaitons pour ceux qui nous sont proches et que nous aimons, comment nous souhaiterions que ce temps-là ne soit pas un temps vide et inutile. Comment accompagner le malade et sa famille dans ce temps qui dure? On abordera plusieurs situations. Comment vivre donc ce temps qui reste pour lui donner du sens? Alors, le sens se trouve, il est là aussi un peu difficile de vouloir lui en donner. J'ai mené récemment une étude auprès de parents qui ont perdu un enfant atteint de cancer et, disait-il, c'est quand même très difficile de trouver du sens à cette épreuve et je trouvais qu'ils avaient tout à fait raison de nous questionner aussi sur cette espèce d'omniprésence à chercher du sens. toutes les fins de vie, par exemple, n'ont pas forcément un sens immédiat et défendable. Quand le temps manque, et l'exemple des morts violentes, j'en parlerai un peu plus rapidement parce que il nous aurait fallu plus de temps pour rapporter ces situations plus en détail, mais nous pourrons aussi en parler pendant le temps du débat. Alors, je choisis de répondre à ces interrogations par le biais du terrain. Ce que nous appelons, quand on est socio-anthropologue, anthropologue social et culturel, mais c'est un peu long à décliner, donc nous nous résumons et ramassons ce drôle de métier sous la formule socio-anthropologue. C'est la même chose que qu'ethnologue. Il y a deux écoles en France et on maintient ces deux écoles, mais c'est le même métier. C'est celui qui consiste à s'intéresser à la manière dont les humains trouvent des réponses aux difficultés, aux mystères, aux énigmes qui sont les leurs. Et bien évidemment, la maladie grave et la fin de vie font partie de cette nécessité humaine de trouver à la fois comment être et comment faire avec la maladie grave et avec la mort. Donc, quand on est anthropologue, alors malheureusement de la santé, moi je travaille très peu sur la santé, mais mon poste s'intitule ainsi, socio-anthropologie de la santé. Je travaille donc depuis longtemps sur la part évitable des violences dans le soin. D'ailleurs, nous venons de sortir les actes d'un colloque qui a eu lieu à la Cité des Sciences en janvier 2013. Nous sommes réunis en association à quelques-unes. Cette association s'appelle Questionner autrement le soin. C'est aussi un groupe de réflexion. Et nous avions donc fait, avec l'aide très précieuse d'Emmanuel Hirsch, qui préside l'espace éthique de la PHP, qui s'appelle maintenant l'espace éthique Île-de-France, nous avions organisé donc un colloque pendant 2 jours et ce colloque s'appelait « Violence et soins ». Nous sortons dans la collection Espace éthique chez RS ce livre « L'éthique à l'épreuve des violences du soin » qui reprend les belles communications que nous avons pu entendre pendant ces 2 jours. Donc la question des violences institutionnelles et des souffrances évitables m'intéresse depuis le début de ma vie professionnelle et particulièrement donc, pour ce qui concerne la maladie grave et la fin de vie, la place qu'a la mort dans notre société, la place qu'a la mort à l'hôpital. Sont vraiment des thèmes de recherche qui m'occupent depuis longtemps et qui m'amènent à échanger sous la forme de formation, par exemple, avec beaucoup d'équipes. Et donc je m'appuie sur des études de terrain que je mène en France, mais pas seulement. J'ai beaucoup travaillé au Québec et aussi en Suisse romande. Des études de terrain donc où nous nous déplaçons, hein, nous allons chez les gens, nous allons à l'hôpital. Et je dois dire que j'ai vraiment bénéficié de la grande confiance d'équipes hospitalières, de chefs de service aussi, qui ont compris que tout de même ça n'était pas rien d'avoir un anthropologue dans son service, et surtout qu'il y a toujours des temps où nous restituons ce que nous comprenons, ce qui nous interroge. Et ça n'est pas toujours facile. Et c'est là que la confiance s'éprouve lorsque nous continuons cependant à pouvoir nous parler. Et c'est donc aussi l'analyse de beaucoup de pratiques professionnelles en santé qui m'intéresse. J'évoquais l'intérêt pour la maladie grave et la fin de vie. J'ai plus particulièrement travaillé sur ce qu'on appelle les morts anthropologiquement difficiles, celles qui viennent si tôt qu'elles sont quasiment inconnues socialement, la mort des très petits bébés, mais aussi la mort des enfants et des adolescents. Et puis avec Anne Vega, nous avons écrit un livre pour une autre mémoire de la canicule, parce que nous avions enquêté, elle et moi, auprès de familles, auprès de soignants et auprès de professionnels du funéraire, à la suite de la canicule de 2003. Ces morts sont difficiles parce qu'elles sont trop précoces, et parce qu'elles sont trop nombreuses pour la canicule de 2003, mais bien évidemment, nous n'établissons pas de palmarès entre les morts faciles et difficiles. Surtout pas, surtout pas. Mais nous savons que partout, les humains, lorsque la mort arrive en grand nombre ou qu'elle arrive trop tôt, ont eu besoin de traiter symboliquement, un peu différemment des autres morts, ces défunts-là. Et ce sont des défunts, notamment lorsqu'ils sont jeunes, qui peuvent revenir tourmenter les vivants dans toutes les régions du monde, et nous sommes persuadés qu'ici aussi. Alors, j'ai indiqué que c'était des recherches moins tristes qu'il n'y paraît, très certainement parce que la vie est pour moi suffisamment joyeuse pour que je ne sois pas trop atteinte par ces thèmes. Et puis, je trouve vraiment et très sincèrement que c'est passionnant d'écouter ce que des gens dans des positions professionnelles et sociales très variées ont à nous dire sur comment on fait face au malheur, et notamment au malheur du handicap ou de la maladie grave et de l'avènement de la mort. Alors ça, c'est plutôt ce que je vous ai exposé, la partie recherche. Et puis, je suis maître de conférence donc à Lille, à la faculté de médecine d'État, et donc j'enseigne aux futurs médecins. Et il me semble depuis quelques années que nous avons beaucoup de chance à voir se multiplier en France la réflexion, les ateliers de médecine narrative. Et donc, je forme des petits groupes d'étudiants à cette médecine narrative, celle dont je peux dire qu'elle est elle rend capable d'écouter les histoires des patients et de leurs proches et de se montrer sensible à la vie des soignés et à ce que ça leur fait d'être malade, d'être soigné, d'être hospitalisé, d'entrer en institution, se montrer sensible aussi à ce que c'est qu'être soignant, médecin ou non médecin, peu importe, être capable d'écouter les histoires et non pas de s'en raconter au sens où on serait dans la fabulation, mais au contraire, dans la possibilité de faire le récit pour soi-même et pour d'autres, de ce que c'est, par exemple, quand on est étudiant en médecine, d'être confronté pour la première fois au corps d'un patient nu ou pour la première fois au corps d'un défunt. Et vraiment, là, il s'agit, par ces travaux d'écriture, donc les étudiants écrivent des nouvelles, des petits livres même parfois, et commencent maintenant à les présenter dans différents colloques en France. Il s'agit vraiment de leur indiquer combien être touché par l'autre n'est pas un défaut, n'est pas une tare, est absolument essentiel pour soigner, prendre soin. Et puis, si on veut rester disponible à la fois à la réalité qui est vécu par les autres, mais aussi par soi-même, et notamment dans les moments difficiles, mais je crois aussi dans les moments heureux, la manière dont on traverse ce métier du soin est quelque chose qui est au cœur de la médecine narrative, et je trouve que, historiquement, c'est une chance de voir se développer ce mouvement aujourd'hui. Ça vient des États-Unis et ça commence à se développer en France. Et donc, dans cette réflexion sur la nécessité du récit et le fait que c'est pas périphérique ou anecdotique, mais complètement central dans la possibilité, donc, d'exercer cette vraie science humaine qu'est la médecine, je ne vais pas dire que devrait être, eh bien, la lecture de romans, de récits et la participation à des ateliers d'écriture sont vraiment lecture et participation très aidantes pour enrichir, alors pour les étudiants, cette relation naissante. Soignant-soigné, ils la découvrent. Et donc, c'est à la fois un travail théorique, clinique, pratique, et pour les travaux de terrain, où en fait, je restitue beaucoup les résultats de mes études avec les équipes. Et pour ce qui concerne la faculté aussi, nous essayons à plusieurs, avec des horizons disciplinaires différents, de travailler, réfléchir ensemble à la fois à former le mieux possible les futurs praticiens et puis à comprendre ce qui se passe dans un monde qui va vite, qui change beaucoup. Et nous réfléchissons à la transformation des normes, mais aussi aux manières de faire et de penser qui semblent parfois aller trop vite. La loi semble toujours en retard par rapport aux attentes sociétales. Et puis, nous avons à penser à plusieurs pour penser aussi la grande diversité des cultures, la grande diversité sociale des populations qui sont présentes et vivantes dans notre pays. Alors, pour en venir revenir à ce qui concerne la fin de vie, je fais là un premier constat anthropologique. C'est que effectivement, depuis toujours, depuis que les humains existent et que paléontologues, archéologues nous aident à trouver les traces, parfois infiniment discrètes, de comment ils faisaient devant la mort, eh bien, nous comprenons que les humains, où qu'ils soient, ont ressenti donc ce besoin d'être ensemble, de renforcer des liens de sociabilité. Être seul face au malheur est le plus grand des malheurs. Le fait de renforcer le lien social face à ces événements malheureux semble vraiment être une permanence humaine, même si les formes de visibilité et de monstration de ce lien social ne sont pas les mêmes toujours, et même si on peut avoir le sentiment que certains vont, par exemple, mourir seuls dans certaines sociétés, eh bien, la manière dont ils y vont a à voir avec le collectif et des décisions collectives. Et donc, cette question de comment font les humains entre eux et jamais seuls, en fait, face au malheur, intéresse les anthropologues depuis que la discipline existe. Et ce que nous constatons, et c'est vrai que c'est d'abord ce que les anthropologues ont montré, c'est combien les signes symboliques que sont les rites, et je vais en parler ce soir parce que c'est absolument essentiel pour cette question du temps et de poser des jalons dans le temps, eh bien, ces signes symboliques ont été très étudiés, très observés. Combien on faisait aussi appel à la tradition. Alors ça, c'est pour évoquer un monde qui est un peu bouleversé pour nous en France depuis les années 1950, mais on peut dire que jusqu'aux années 1950, la manière de se tourner vers le passé et la tradition pour savoir quoi faire, comment faire, était effectivement l'attitude la plus fréquente. Ce XXe siècle a connu effectivement des changements considérables. Vous avez peut-être à l'esprit combien la montée des experts, la professionnalisation du soin a fait reculer les savoirs familiaux, les savoirs des plus anciens quant à comment faire, quoi dire, comment être, notamment autour de la fin de vie et de la mort. Et donc, ce qui s'observe ou s'est observé un peu partout a effectivement un peu changé, mais on aura un exemple d'une jeune mère ayant perdu son bébé et on verra que la grand-mère savait, elle, qu'il fallait faire quelque chose autour de la mort, on le verra un peu plus loin. Donc, cette mémoire collective, ce recours à la tradition a longtemps existé, existe encore dans de nombreuses régions du monde. Il y avait sur France 3 hier soir un magnifique documentaire très tard sur les confréries en Corse. On voit combien, effectivement, la réponse collective et la manière de faire, notamment avec les malades et les morts dans ces confréries, s'appuie sur la tradition. Que ce soit en Corse ou ailleurs, sur le continent, il y a aussi de nouvelles réponses. Il y a aussi de l'inventivité. Je ne suis absolument pas de ces anthropologues, et d'ailleurs j'en connais peu, mais parfois on veut faire jouer ce rôle-là à l'anthropologie. C'est toujours très dommage à considérer que seul le passé serait un réservoir de bonnes réponses et à s'effrayer beaucoup du changement. Pas du tout, le changement nous passionne et nous aimons l'observer, le comprendre, le suivre. Et l'inventivité humaine et l'inventivité contemporaine nous intéressent beaucoup. J'ai par exemple, pour ma part, été très sensible à ce qui s'est transformé dans les cérémonies qui n'en étaient pas vraiment autour de la crémation et qui se rapproche de plus en plus des cérémonies d'inhumation aujourd'hui, voir quelles pressions ont été exercées pour que ça change, qu'il se passe quelque chose d'autre que l'effroi, à être une sorte de spectateur ou de témoin confronté au vide et même à la vacuité pendant longtemps était insupportable. Et donc j'ai pu observer comment les choses ont changé. J'ai pu aussi suivre, grâce au docteur Maryse Dumoulin et au docteur Anne-Sylvie Valla, ce magnifique mouvement de reconnaissance des morts périnatales, d'abord dans le nord de la France. Les Anglais, les Belges nous avaient précédés depuis bien longtemps, mais ça avait du mal à arriver jusqu'à la France. Et j'ai eu la chance donc de suivre le développement de l'attention et de l'intérêt porté sur les morts périnatales dans un pays comme le nôtre. Donc voilà, ce qui s'invente, ce qui se reprend en partie de manière de faire précédente, mais ce qui doit aussi se trouver comme nouvelle solution, sont des choses tout à fait aussi intéressantes que ce qui se faisait par le passé. Et donc, je ne nourris pas de nostalgie particulière sur un mourir autrefois. Je crois qu'on pouvait mourir bien mal et bien douloureusement aussi. Peut-être moins seul, mais ça, c'est si on mourait en famille. N'oubliez pas que l'hôpital est l'hôtel Dieu d'abord, mais l'hôpital a été conçu pour ceux qui, justement, n'avaient pas ce réconfort et cette présence familiale, vicinale, amicale. Et on mourait même dans des espaces où on était plusieurs, on pouvait mourir très seul. Donc, non, pas de nostalgie, mais une très grande envie de comprendre comment le monde marche et comment il peut se découvrir aujourd'hui. Ce qui, partout, semble une nécessité, c'est d'introduire du sens et de symboliser, d'interpréter sous une forme qui effectivement puisse être comprise par les membres d'un groupe, par exemple, d'une société, mais aussi d'un petit groupe comme une lignée familiale, comment ce mystère, par exemple, de la finitude et du mourir, ou cette profonde injustice de la maladie grave qui frappe l'enfant, comment tout cela donc est rendu compréhensible par des systèmes d'interprétation que produisent les humains et qu'ils produisent encore. Alors la médecine est un des systèmes d'interprétation de ces événements, mais évidemment ce n'est pas le seul. Et si les humains n'avaient pas cette volonté de rendre intelligible ce qui s'offre à eux comme énigme, et bien évidemment tout cela resterait confus et profondément destructeur. Donc il me semble pour ça tout à fait essentiel de parler de la mort dans la cité, pour que nous puissions aussi à plusieurs à la fois discuter et tenter de construire des systèmes d'interprétation pour quitter le seul point de vue personnel. Les questions de fin de vie ont, je crois, beaucoup souffert depuis les années 60-70, du siècle précédent, d'une très forte individualisation, on peut même dire aussi d'intimisation. Mais j'y reviendrai. Alors dire la mort qui arrive pour chacun d'entre nous, et pas seulement pour le mourant, c'est la symboliser. Et je donne cette définition du symbolique qui connaît plusieurs acceptions, mais on peut dire, en tout cas, et c'est un peu différent pour les anthropologues que pour les psychanalystes. Le symbolique, c'est cette activité humaine et de la culture humaine extrêmement large qui consiste donc à passer du sensible au sémantique, ce qui arrive à notre corps, à un système de sens et d'interprétation. Déjà se dire « qu'est-ce qui m'arrive ?» et en parler avec d'autres qui tentent des diagnostics. C'est quelque chose qui fait entrer donc dans le champ sémantique ce qui sinon resterait strictement sensible et incorporé, mais dans l'impossibilité à se partager et à se dire. C'est parfois d'ailleurs comme ça. Et notamment autour de certaines douleurs, Il est parfois extrêmement difficile de passer du champ sensible au champ sémantique pour dire ce qui est éprouvé. Le symbolique, ce sont les références communes à un groupe. Vous savez, cette expression « on se comprend à demi-mot », c'est souvent parce que les symboles qu'on utilise permettent tout à fait de se reconnaître et de s'y retrouver. Alors, le temps du rite, parce que, en fait, ce que les humains ont produit partout, autour de la fin de vie et autour de la mort arrivée, c'est du rite. On va y revenir assez longuement. Mais le temps du rite, on va le voir, est un temps long. Même la minute de silence, qui est, à mon avis, un très beau rite, est une minute qui dure, et surtout, c'est une minute où tout s'arrête. Où nous sommes dans la possibilité de, et le devoir de nous arrêter dans nos activités quotidiennes, dans notre mobilité, de nous taire, et de nous taire dans un silence qui n'est pas le vide, qui est ce silence qui permet de rendre hommage, de se souvenir, de marquer une émotion. Même la minute de silence est un temps long dans nos vies et dans nos vies contemporaines, urbaines le plus souvent, mais je crois aussi que le monde rural est gagné par l'intensité du rythme. Le temps du rite, qui est donc un temps long, s'accommode ou s'accommodait, j'aurais peut-être dû utiliser un imparfait, davantage d'un long mourir. On va le voir avec des rites d'agonie qui ont tout à fait disparu. Tout simplement parce que nous ne supporterions plus ces rites aujourd'hui. Mais ce que nous constatons, et on y reviendra, c'est que les morts accidentelles, les morts violentes, les accidents, les suicides, ne vont pas permettre que se déroule, en tout cas avant, ce temps qui est un temps d'interprétation et de compréhension aussi de ce qui est en train de nous arriver ou d'arriver à l'autre lorsque nous sommes à ses côtés et qu'il est mourant. Alors j'aime bien, je vous ai dit, l'utilisation de la littérature que je fais souvent avec les étudiants. J'aime beaucoup ce petit livre de Sylvain Trudel, qui est un Québécois, paru chez 10-18, il y a déjà plusieurs années, 13 ou 14 ans je crois, « Du mercure sous la langue », un petit livre absolument magnifique et percutant sur un jeune atteint de cancer. Et Sylvain Trudel fait dire à son personnage ceci, c'est pas mourir, ça c'est s'arrêter net de vivre. Alors lui évidemment est dans un temps long du mourir, son personnage est dans un temps long du mourir. Il dit, hors de moi, je crois qu'on vit dans la tristesse des choses, loin du temps où les romantiques aimaient mourir, parce qu'aujourd'hui on n'aime plus mourir. La preuve, on se tire une balle dans la bouche, on se pend dans la cave, on s'ouvre les veines, on avale du poison et on se jette dans le fleuve ou devant un train. Alors c'est pas ça qui m'intéresse, parce que ça on le fait quand même depuis longtemps, on n'a pas attendu les années 2000, mais je trouve très pertinent ce qu'il dit après, c'est pas mourir ça, c'est s'arrêter net de vivre, c'est en finir une bonne fois pour toutes, c'est ne pas traîner. Et ça je trouvais que l'expression c'est ne pas traîner est particulièrement intéressante aujourd'hui, car elle semble préoccuper nos contemporains. C'est ce que demandent de plus en plus souvent nos contemporains, notamment lorsqu'ils ne sont pas en fin de vie, mais je crois que nous avons à entendre aussi que certains en fin de vie ne veulent plus que ça traîne. Lorsque ça traîne effectivement dans une forme de, d'isolement qui confine à l'isolement, tel que Hannah Arendt l'avait défini, basculer hors du monde, ou effectivement mort psychique, mort sociale, mort relationnelle accompagnerait ces fins de vie-là. Donc ne pas traîner, je crois qu'on a à le prendre au sérieux. Et puis, bien sûr, ne pas traîner, ça n'est pas surprenant que ça émerge hein, comme attente sociétale, parce qu'on est dans un monde, je l'ai déjà dit, de la rapidité, de la vitesse dans l'espace et le temps. Et évidemment, un monde qui s'accorde de plus en plus mal à la temporalité de la maladie grave et longue, ou encore au pas lent, hein, à la lenteur de la grande vieillesse. Et ce décalage rend effectivement tout à fait indésirable, bien sûr que est souvent indésirable l'épreuve de la grande vieillesse et de la maladie lorsqu'on est plus jeune et pas encore malade, mais rend tout à fait indésirable le fait de pressentir qu'on n'aura plus que très peu de prise sur ce que sera la vie. Et ça, je crois que c'est une de nos grandes difficultés. Alors, il n'y a pas que la rapidité de nos moyens de transport et de nos rythmes de vie qui s'opposent d'une certaine manière à un long mourir et au pas lent de la grande vieillesse. Il y a aussi, pour ce qui concerne les institutions, hospitalières ou non hospitalières, médico-sociales, les notions de rentabilité et puis d'intensification de l'activité qui, évidemment, font que nos concitoyens voient de plus en plus mal comment, avec ces exigences-là, il serait possible, par exemple, de vieillir et de mourir à son rythme. Et ceci rend très suspecte, d'une certaine manière, le fait de prendre son temps pour vieillir et mourir, parce que ça rend effectivement ceci inutile et coûteux. Le temps de prendre soin aussi, hein, serait, peut-on le comprendre parfois, du temps perdu. Le temps de penser est aussi quelque chose qui s'éloigne de la réflexion des équipes dans certains établissements. Et donc aussi, évidemment, cette question du mourir dans la durée, cela semble tellement contradictoire, non seulement avec l'organisation du travail des soignants, mais même l'organisation du travail et de la vie d'une famille qui entourerait, par exemple, celui qui va mourir. Alors, Marc Auger disait il y a déjà une vingtaine d'années que la mort n'était plus au centre de nos vies. Il est vrai que, pour mieux le comprendre, eh bien, on peut se plonger dans un autre foie qui n'est pas la préhistoire. Les confréries que j'évoquais à l'instant, la tradition en Bourgogne de la femme qui aide, qui faisait à la fois les bébés et les morts, un rythme qui pouvait être lent, mais d'une grande efficacité, et ces femmes qui aident étaient tout à fait au centre de la vie villageoise. Et on en voyait encore dans les années 1950 en Bourgogne, elles portaient d'autres noms ailleurs, mais pendant que les hommes préparaient les cercueils et s'occupaient de l'organisation du convoi, les femmes s'occupaient de donner la vie et de prendre soin des morts. C'était donc au centre de nos vies. C'est encore au centre des vies de beaucoup de sociétés de par le monde. Alors évidemment, si vous allez au musée du Quai Branly, vous serez surpris en lisant les légendes, mais il y en a tellement sous chaque objet, combien beaucoup de ces objets sont des objets funéraires. Et ces populations très nombreuses représentées au musée du Quai Branly à Paris vivaient avec ces objets qu'ils ne mettaient pas dans les musées, bien sûr, mais vivaient au quotidien avec ces objets qui indiquent la présence des morts ou la pensée des morts dans la vie quotidienne. Ce que nous savons, alors effectivement le droit du travail avec ces 3 jours généreux de congé lorsque on perd un très proche, mais le travail à d'autres moments que lorsque la mort frappe, qui est un espace collectif, comme l'école, par exemple, mais on pourrait dire la même chose de l'université, et qui sont des lieux tout à fait essentiels de possibilité de la construction d'interprétation et d'une pensée de la mort, mais aussi des lieux d'affiliation et d'accueil, évacuent complètement cette réflexion sur la mort qui, bien évidemment, survient. Alors, de plus en plus, dans les écoles, certaines associations, lorsqu'elles le peuvent, lorsque le rectorat le permet, lorsque la direction de l'école ne s'en effraie pas, lorsque les parents ne sont pas non plus eux-mêmes terrorisés à l'idée qu'on puisse parler de la mort avec les enfants, les collégiens, les lycéens, eh bien organisent cette parole autour de conférences avec les plus grands, puis autour de livres ou de films avec les plus jeunes, où il est possible donc de penser cet événement, évidemment en citant Yankelevitch qu'on va retrouver très vite. Pouvoir parler de la mort, comme le fait Jeanne Malve depuis sa création, c'est lutter contre une tentation très contemporaine qui est en train de se modifier depuis 15 à 20 ans, mais qui a donc été très marquée après la Deuxième Guerre mondiale et au moins pendant 30 ou 40 ans, d'intimiser la mort, de l'individualiser. Or, la mort n'est pas qu'un fait intime et privé, et c'est malheureusement si dans les espaces publics la parole n'est pas possible, si on pense par exemple que c'est mortifère, c'est-à-dire étymologiquement que ça apporte la mort que d'en parler, effectivement le silence règne et on intimise complètement cet événement. Alors en sciences sociales, depuis longtemps, nous sommes absolument persuadés que la mort est un fait social et qu'elle concerne en fait l'ensemble des rouages de la société et des interactions sociales. Et on peut dire que partout et en tout temps, mais j'ai déjà dit qu'un peu moins en France depuis les années 1950, ça avait commencé un tout petit peu plus tôt aux États-Unis, ce qu'on avait constaté à partir de ces années-là, c'est une sorte de plus en plus grande discrétion des rites, notamment funéraires, et des rites d'agonie particulièrement. Mais partout et en tout temps, on a toujours considéré que cette traversée périlleuse de la fin de vie et du travail du trépas, donc quand la mort est là, nécessite donc que se déploient des rites. Et l'agonie, l'avènement de la mort elle-même, et évidemment le long temps du deuil, eh bien, était, j'allais dire, propice, je ne sais pas si le terme est très adéquat, mais au fait que ces activités rituelles existent et soient reprises et peu contestées. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1950, la manière dont se déroulaient les rites faisait dire à ceux qui y participaient ou ceux qui n'y participaient déjà plus que ça n'avait plus de sens. Le sens qu'ils attendaient de cérémonies, par exemple, était probablement tout à fait autre que celui encore très codifié que les églises, par exemple, proposaient. Mais du côté laïque, nous voyons tout à fait l'exemple de communautés comme les crématistes ou comme les francs-maçons qui ritualisent et ritualisaient déjà aussi beaucoup leurs rites, et notamment les rites funéraires. Mais cette dimension figée, cette dimension très attachée à reproduire ce que le passé produisait, a été contestée. Et il a fallu qu'effectivement 20 ou 30 ans s'écoulent avant que ce renouveau rituel et ce nouvel intérêt sur la mort et les questions qui l'entourent puissent à nouveau exister. Et puis évidemment, moins on meurt au domicile, moins les manières de faire familiales, vicinales, locales sont reproductibles. C'est effectivement aussi une période où les Français ont commencé à mourir beaucoup plus massivement à l'hôpital. et l'institution et son fonctionnement, l'organisation du travail sont assez éloignés de ce temps pris, donné pour que des rites se déploient, considérant par exemple que tout ce qui est de l'ordre de la symbolisation est inutile ou du temps perdu. Mais on y reviendra et on verra qu'aucun changement n'a été possible sans que les soignants aussi se mobilisent sur ces questions. Et le longtemps du deuil, vous le savez bien sûr, avec le port de vêtements du deuil, de signes du deuil, encore très répandu dans de nombreuses régions du monde, ont ici quasiment disparu, mais nous voyons d'autres formes apparaître de symbolisation. Les symboles ne sont plus les mêmes. Il nous faut donc nous adapter. C'est par exemple le recours évidemment bien plus massif et nouveau dans l'histoire à des associations, d'autres collectifs qui vont accompagner, qui vont aider, qui vont être aux côtés, puisque d'une certaine façon, dans les groupes d'appartenance des personnes, en raison aussi de déplacements, d'installations dans les villes, eh bien ces groupes n'étaient plus là ou ne sont plus là pour accompagner à la fois la mort quand elle arrive et puis ce moment long qui éprouve les endeuillés. Alors, j'ai parlé des rites et je vais en parler encore parce que il me semble tout à fait essentiel de comprendre qu'ils ont très directement à voir avec la question du temps. Et j'aime bien cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle qui dit « Les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace », c'est-à-dire un abri, un repère. Et évidemment, quand nous voulons penser la question de la fin de vie et le travail du trépas, qui est une expression que les anthropologues utilisent beaucoup, autant nous ne sommes pas très amis avec le travail du deuil. Moi, je pense comme Baudry que c'est le deuil qui nous travaille. Mais le travail du trépas, on aime beaucoup ça. Donc, nous sommes attachés à cette expression pour dire que la mort n'est évidemment pas un seul instant. Il y a à la fois tout un ensemble de choses à faire, à penser, à éprouver dans l'avènement de la mort. Et oui, il nous semble que ça demande une mobilisation qui peut se retrouver et se définir avec le terme de travail. Et puis, avec le rite, nous pouvons parler de structures temporelles qui se solidifient. Vous m'entendrez souvent parler de jalons. Ça permet de poser des jalons. Une des fonctions du rite, je ne crois pas l'avoir indiqué dans une diapo, c'est très certainement de canaliser l'angoisse. Et donc, canaliser l'angoisse, qui est particulièrement aux aguets dans ces temps de fin de vie et d'avènement de la mort, eh bien, c'est absolument essentiel. Et ça passe par effectivement une forme de répétition et de nécessité de marquer symboliquement ce passage de vie à trépas, de vivant à mort, et puis pour les vivants, de cette nouvelle place qu'il leur faut occuper en l'absence du défunt. Et ça, nous savons que c'est indispensable. Alors, pour l'anthropologue, mais pas seulement, le mot rite renvoie à une pratique réglée, collective et transmise, qui a souvent un caractère sacré, mais nous préférons entendre sacré au sens du statut d'exception que cela a. Si on reprend la minute de silence que j'évoquais tout à l'heure, on ne fait pas des minutes de silence à tort et à travers à n'importe quel moment de la journée et de la vie, parce que sinon, évidemment, ça n'aurait plus la même portée. Il y a des occasions, il y a des situations où le rite, et notamment le rite funéraire, mais pas seulement, a effectivement une dimension exceptionnel, et pas uniquement, évidemment, avec la magnificence des cérémonies. C'est pas la mort du roi et les obsèques du roi que j'évoque. C'est effectivement ce qui fait que nous nous arrêtons dans à la fois nos pensées habituelles et nos vies quotidiennes, et nous manipulons des symboles. Les petits photophores, par exemple, aujourd'hui reviennent. Évidemment, c'est le même symbole que la flamme, le cierge que nous connaissons depuis très longtemps. Pour certains groupes et certaines confessions religieuses, tout ce qui est de l'ordre du végétal, qui est tout à fait requis. Pour ce temps qui entoure la mort, alors que pour d'autres, et je pense à la religion juive notamment, les fleurs sont absolument bannies. Mais on manipule des symboles lorsque nous comptons sur la présence de tel ou tel signe. Effectivement, de l'attention, de l'hommage, du souvenir, de l'espérance que nous plaçons dans la cérémonie ou le déroulé d'un rite. Alors, à la fois, les rites peuvent initier aux étapes nouvelles. Alors, pour ce qui concerne le travail du trépas, un mort n'est vraiment mort chez nous comme partout ailleurs, que lorsque les rites funéraires qui doivent être faits ont été réalisés. Alors les rites changent, hein. Les rites sont des productions humaines, évidemment les hommes les font, les défont. Hein. Mais il y a dans des rites d'initiation, bien sûr, des étapes nouvelles et des impulsions données au changement, mais aussi, et bien plus qu'on ne le croit, dans tous ces rites qui entourent la mort. Mais le rite n'est pas qu'impulsion de changement, il est aussi une manière de poursuivre, de durer, de continuer sa propre histoire. Et il y a dans ce très joli petit livre que je vous recommande, Manifeste pour l'âge et la vie, Réenchanter la vieillesse, que vous connaissez peut-être, avec Michel Billet, que vous connaissez bien, Christian Galopin, José Pollard, c'est aussi paru chez RS. Il y a de très belles choses, je pense que c'est José Pollard qui écrit combien les rituels pour les personnes âgées, c'est quelque chose de tout à fait essentiel et les contrarier, les bouger, peut les déstabiliser considérablement. Et l'auteur dit, et ça n'a rien à voir avec la protocolisation très déshumanisée de routines institutionnelles. Évidemment, si le rite perd son caractère symbolique et son statut d'exception, mais qui fait que on y tient beaucoup, eh bien, il ne peut plus s'appeler ainsi, il s'appelle une routine. Et donc, le fait de maintenir un certain nombre de rites, eh bien, ne fait que toute sa vie, ça peut être des rites quotidiens, hein, bien sûr, aussi. Il n'y a pas que les rites funéraires, il n'y a pas que ces rites qui rythment l'enfance. Je rappelle les dents de lait et la petite souris, qui est un rite tout à fait important, hein, qui vient accompagner la perte. Qui n'est pas sans générer de l'angoisse et qui appelle consolation et compensation. Parce que si la souris, mais elle ne prend pas toujours la dent, mais par contre, elle apporte quelque chose pour compenser cette perte. Et cela aide à passer l'épreuve, même si nous pouvons considérer qu'elle est mineure, cette épreuve-là. Et donc, pour qu'on puisse parler de rite, il faut une conduite spécifique qui prend habituellement le corps comme support. C'est pour ça que j'aime bien citer l'exemple de la minute de silence, parce qu'elle n'est pas que de silence, elle est aussi d'immobilité. Et puis la voix, évidemment, c'est aussi directement l'expression du corps. Donc le fait qu'on doive se taire me semble quelque chose qui nous amène à bien comprendre ce dont nous parlons là. C'est lié à des situations et à des règles précises. Effectivement, c'est davantage les premières dents de lait qu'on va ritualiser. La première mèche de cheveux qui est coupée, qui n'est peut-être plus aujourd'hui très fréquemment accompagnée de rites, mais qui l'était il n'y a encore pas si longtemps. Mais vous voyez bien que si pour toutes les dents perdues et pour tous les cheveux coupés, on devait développer des rites familiaux, là, il y aurait quelque chose qui se diluerait. Hein. La dimension d'exception et de règles codifiées est effectivement présente. Et bien sûr, il y a une marge d'improvisation et d'apport nouveau, parce que sinon, les rites se dessèchent et plus personne, notamment parmi les plus jeunes, ne s'y reconnaît. Et d'ailleurs, les jeunes nous obligent autour des rites funéraires à modifier nos manières de faire. Ce sont eux, notamment lorsqu'ils perdent un des leurs, qui ont introduit en France les applaudissements. Au moment d'obsèques. Moi, j'ai travaillé avec les professionnels du funéraire qui ont été la première fois confrontés à cela, qui m'ont dit avoir eu très peur, qui savaient très bien que ça se faisait de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Ne pas applaudir est vraiment une faute symbolique importante et une faute sociale. Ici, en France, jusqu'à très récemment, on n'applaudissait pas. Je constate de plus en plus qu'on le fait avec cette première sollicitation auprès des officiants des rites hein, et notamment les maîtres de cérémonie dans le funéraire et cette justification, c'est trop beau, c'est trop fort, est-ce qu'on peut applaudir ? Et ceux qui l'ont permis ont été absolument bouleversés par l'ampleur de ces applaudissements et se sont dit, tiens, les rites changent, et c'est pas si mal, même si ça nous bouscule, qu'ils changent, puisque là, on sent quelque chose d'un collectif, de sa ferveur et de son engagement dans ce qu'ils partagent. Donc, encore une fois, éviter d'imaginer que les choses sont figées. D'ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec de très jeunes sociologues qui, par exemple, sont passionnés par tout ce qui se passe sur Internet autour du deuil, la façon dont les jeunes notamment, vivent de façon très active les échanges, le chagrin autour du deuil, par le biais de ces échanges électroniques. Heureusement qu'il y en a pour nous demander, par exemple, de ne pas faire la vieille et de ne pas se montrer effrayée et uniquement effrayée hein, par ces nouvelles manières de faire. Et donc d'entendre la dimension rituelle et symbolique de ce qui se joue là, même si cette manipulation de symboles ne nous est pas courante, commune et connue. Et puis, évidemment que pour que des pratiques rituelles deviennent des rites, il faut qu'au moins à quelques-uns, les acteurs, les témoins, on décide que ce qui se fait a du sens. Et d'ailleurs, on voit très bien quand certains reprennent ce qu'ils ont vu faire, dans des obsèques par exemple, on voit très bien combien des pratiques qui s'essayent, mais qui ont une dimension rituelle, deviennent des rites. Alors, je vais en venir assez rapidement aux rites d'agonie qui n'ont plus cours, mais avec cette idée, je disais canaliser l'angoisse. Avec les rites de passage, il y a tout de même quelque chose que Pierre Hernie, qui est un grand spécialiste des rites, montre très bien, c'est que c'est douloureux de renoncer au statut précédent, souvent. Et que quitter ce que l'on était est difficile parce que ça n'était pas sans avantage. Et alors, notamment autour de la mort et des rituels d'agonie, ce qui est à venir n'est pas toujours réconfortant et réjouissant. Et donc, on considère que cette épreuve et cette douleur-là doit être ritualisée, accompagnée et symbolisée. Et c'était donc particulièrement le cas pour quelques rites d'agonie. que je voudrais évoquer devant vous, parce que nous allons constater combien nous pourrions difficilement imaginer la fin de vie avec seulement cette manipulation de symboles. Donc je rapporte que chez les Juifs d'Alsace, hein, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, ce temps de l'agonie, d'ailleurs on utilisait le terme, alors que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute une période où notamment à l'hôpital, il était impossible d'utiliser ce mot. L'agonie était donc un moment fortement codé et on devait s'y plier. Et ça faisait des siècles que ça durait, et pas seulement chez les Juifs d'Alsace. C'est là, alors que la mort va arriver, que se faisait sentir une forte solidarité entre celui qui va mourir et les autres. Et il était absolument essentiel que celui qui allait mourir ne soit pas privé de sa mort. Et il arrivait que ce temps-là soit un peu long. Et j'aime beaucoup la solution que cette communauté avait trouvée. Il était d'usage donc, de déposer la clé de la synagogue sous l'oreiller, en considérant, et là tout le monde comprenait le symbole hein, qui était utilisé, qu'il s'agissait de mourir et donc de passer à trépas, et si possible sans souffrance. J'ai un autre exemple. En Calabre, en Italie, là encore, on retrouve jusque dans les années 60-70 du siècle dernier ces pratiques. Pour abréger une agonie douloureuse, on plaçait sous l'oreiller du mourant le négatif de sa photographie. Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter qu'on aurait beaucoup de mal aujourd'hui à accepter seulement ces symboles-là. Hein. Et vous savez combien nous sommes très tentés par la mort douce et combien, effectivement, nous ne pouvons pas, même pour la majorité d'entre nous, imaginer mourir avec seulement la présence de symboles qui n'en sont pas. Puisque nous n'en partageons pas le sens et l'importance, et combien nous voulons davantage peut-être d'analgésie que de symboles, mais pas seulement de la sédation et de l'analgésie. Ces pratiques, ces rites d'agonie ont reculé ou disparu, et le fait que les fins de vie se déroulent à l'hôpital ont beaucoup participé, évidemment, au recul de ces pratiques, mais que s'est-il passé ? Eh bien, on a effectivement, et je crois qu'on le fait encore, beaucoup laissé les mourants et les proches seuls de ce côté du symbolique et du spirituel, en considérant souvent que c'était gênant pour le fonctionnement du service ou que c'était du folklore. Enfin, beaucoup de jugements comme ça négatifs ont circulé et circulent encore. Et puis, évidemment, l'investissement soignant est massivement orienté. J'aurais même pas dû écrire vers la prise en charge du corps. David Le Breton dit « le corps, c'est toute l'épaisseur de l'homme ». Alors, si j'étais une prise en charge du corps avec toute l'épaisseur de l'homme, on n'aurait pas trop à se plaindre. Mais c'est un corps comme sorte de dossier hein, ou de tiroir à organes, assez souvent, avec des actions qui sont très ciblées, mais qui oublient, justement, cette épaisseur de l'homme. Et puis, oui, une prise en charge des manifestations douloureuses, mais par exemple beaucoup moins de la souffrance et de la dimension tragique de la maladie et de la fin de vie. Parce que cette dimension tragique, elle effraie les soignants qui sont très démunis devant cette nécessité. Ils pensent qu'il faut dire. Il faut déjà écouter. Et cela, on va le voir, ça leur est difficile. Alors, moi qui travaille beaucoup dans les maisons de soins palliatifs et les unités de soins palliatifs, je vois bien qu'ils ont réintroduit dans l'enceinte de l'hôpital de la symbolisation là où elle manquait et puis là où elle manque ailleurs. La symbolisation autour du patient lui-même, mais aussi pour eux-mêmes. Je ne connais que dans les unités de soins palliatifs, nulle part ailleurs, ces cérémonies qui sont organisées ou tous les mois ou tous les trimestres, où on décide de se souvenir de ceux dont on s'est occupé et qui sont morts. Et toutes les unités ne le font pas, mais celles qui le font trouvent que ça a une dimension consolatrice et vivifiante qui leur permet de continuer à travailler, qui est très précieuse. Alors, il y a évidemment aussi les situations où il est possible de mourir à la maison. Nous avons, avec Gérard Sébille, mené une étude auprès de parents et de soignants dans le cadre de soins palliatifs pédiatriques et d'enfants décédés il y a 3 ans. Et je vous rapporte l'échange d'un père et d'une mère autour de la mort à la maison de leur petit enfant atteint de cancer, décédé à 5 ans. La question qu'il leur est posée, c'est malgré donc ce que ça comporte de difficile, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir organisé sa fin de vie à la maison? Et la mère répond non, ça correspondait à notre souhait, c'était notre cocon à nous, c'est une expression qui va revenir. L'homme, le père dit, ça correspondait à notre style de vie, on préférait qu'il parte dans notre cocon plutôt que dans une chambre d'hôpital. Sa femme répond, c'est vrai que c'était dur. Les derniers jours, il vomissait tout le temps. Et les 2 derniers mois, il dormait avec nous, on a un grand lit, on le surveillait, on avait peur qu'il s'étouffe. Monsieur dit, on l'a gardé jusqu'au bout, il est parti dans son sommeil. Et j'ai fait une deuxième diapo parce que je trouve que cette nécessité d'être ensemble et de prendre soin les uns des autres était très présente dans cette interview. Madame dit, on n'était pas avec lui à ce moment-là, au moment où la mort est arrivée. On était en train de parler avec de la famille dans la cuisine et c'est quand on est allé se coucher, en lui faisant un bisou, qu'on s'est rendu compte. C'est comme s'il dormait. Monsieur dit oui, il n'avait pas le visage crispé du tout, alors qu'en fait, ils appréhendaient beaucoup ça. J'ai commencé à le déshabiller, je lui ai fait un bisou sur le front et en fait, il était tout froid. J'ai touché la peau, je me suis dit ça y est. Il avait son doudou à côté de lui, comme s'il dormait. On ne regrette pas, car il est parti comme ça et pas à l'hôpital avec le bruit des machines. Et monsieur dit, en plus, on n'était pas seul, on était avec son parrain et sa marraine. Mes parents étaient venus, car c'était imminent depuis quelques jours, pour nous aider. Et pour eux aussi, ils avaient besoin d'être là avec nous plutôt que d'être loin. Eh bien voilà comment la mort à la maison est rendue possible. Mais vous voyez, il s'agit tout de même, avec ce cancer pour lequel cet enfant a été soigné plus d'un an, d'un temps long dû mourir d'ailleurs. Il n'y a pas eu que des moments doux et calmes dans cette fin de vie. Mais quand ils évoquent le moment où la mort est possible à la maison, ils ne regrettent pas d'avoir fait ce choix. Alors, il y a les machines, évidemment, qui ne facilitent pas la symbolisation en fin de vie. Et puis, il y a le silence hospitalier sur la mort. Et je voudrais maintenant évoquer une étude que j'ai menée en 2007-2008 auprès de grands adolescents et jeunes adultes, jeunes majeurs, comme nous disions, atteints de cancer. Et moi, je devais les interroger. L'objet de l'étude portait sur ce que c'est que vivre à l'hôpital, entrer à l'hôpital, être accueilli à l'hôpital quand on a un cancer et qu'on a entre 15 et 25 ans. Et dans le guide d'entretien qui avait été pensé par un comité de pilotage, il n'y avait aucune question sur la fin de vie ou la mort et la crainte de la mort. Le comité de pilotage me connaissait, savait que moi ces questions-là m'intéressaient, mais on me disait bien sûr, il n'est pas question de les interroger là-dessus. Et plusieurs garçons, jeunes gens, dans 3 régions différentes, m'ont interrogé autour de ce silence sur la mort à l'hôpital. Un premier, pourquoi est-ce qu'on ne nous dit rien quand quelqu'un meurt dans le service? Ils sont hospitalisés en adultes. Est-ce que quand moi aussi je vais mourir, personne n'en dira rien? Un autre, ce qui est sûr ici, c'est bien qu'il existe une communauté de soignants, mais pas une communauté de patients. La preuve, on ne nous parle jamais de la mort des autres malades. Vous imaginez la même chose si un soignant mourait dans l'équipe? Pertinent, hein? Et un autre, pourquoi personne n'est capable de nous dire le matin? Vous avez certainement entendu du bruit cette nuit et nous sommes tristes aujourd'hui dans l'équipe parce qu'un de nos patients est décédé. Vous voyez combien ces jeunes interroge de façon très percutante ce silence et évidemment ce dont on voulait les protéger. Et ils nous disent ce que le philosophe dit magnifiquement, la mort est un événement qui a lieu, Je vous ai dit que toutes les sociétés depuis toujours, autour de la mort, organisent un certain nombre de faits, de cérémonies, d'événements pour marquer cet événement. Là, nous sommes vraiment dans cette trop grande intimisation et discrétion, dans une forme de volonté de taire, d'effacer, de cacher, sous prétexte de protéger. Et donc, nous ratons cette prise de conscience-là que ça a lieu. Alors, que faire du temps qui reste? Il y en a beaucoup qui savent pour eux-mêmes, alors qu'ils vont mourir, quoi faire de ce temps qui reste et qui tiennent bon sur ce qu'ils souhaitent que la vie soit encore. Et puis, il y a pour ceux qui s'occupent de ceux qui vont mourir, une relation qu'on peut qualifier d'empathique, qui fait qu'on peut effectivement, sans s'en effrayer, cheminer, alors souvent via des modalités palliatives, parce que les soins palliatifs rendent légitime le fait de pouvoir être aux côtés de ce patient en fin de vie, mais c'est évidemment encore trop rare. Et ça effraie beaucoup, c'est pourquoi moi, il me semble qu'il est essentiel non seulement de former les étudiants en médecine, mais de les familiariser avec cette pensée de ce que l'on fait aux mourants et avec eux et auprès d'eux, pour qu'ils en soient moins effrayés et qu'ils puissent se démarquer d'attitudes qui les choquent dans les services lorsqu'ils sont en stage. Mais évidemment, il faut rappeler que ce cheminement, et j'aime bien évidemment aussi cette idée qu'accompagner, c'est marcher à côté en mangeant le pain. Il faut dire que j'ai mené l'an dernier et l'année d'avant une étude sur fin de vie, plaisir des vins et des nourritures. Alors, le fait de manger à côté en mangeant le pain et en buvant le vin, je l'ai beaucoup rencontré, notamment en soins palliatifs, mais aussi dans quelques EHPAD. Et c'est un beau chemin, celui-là. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que ceux qui se donnent les moyens et sont dans cette exigence professionnelle de cheminer aux côtés de ceux qui vont mourir sont des services moins tristes que d'autres, moins usants, beaucoup moins de turnover et d'épuisement professionnel. Et pour beaucoup de soignants, le constat qu'on ne pourrait plus travailler ailleurs et dans d'autres services. Mais rattrapé aussi par cette question de l'intensification de l'activité dont je parlais et la nécessité de compter les jours maintenant de celui qui va mourir en soins palliatifs, d'y rester une vingtaine de jours, de repartir chez lui pour revenir parce que c'est par tranche de 20 jours qu'il est possible d'être pris en charge et que l'hôpital et des fonds pour se prendre soin là. Et évidemment, là je rapporte les propos d'une psychologue en unité de soins palliatifs, il est aussi tout à fait possible de parler avec le malade de ce qu'il a envie, de ce qu'il est possible de faire à l'hôpital, de la vie qui reste, non pas de ce que l'on projette pour lui, des idées que l'on a. Je suis de ceux et de celles qui sont par exemple assez critiques, notamment en pédiatrie, à l'égard, vous savez, des rêves d'enfants. Beaucoup de parents que je suis allée interroger à domicile plusieurs années après me disaient « c'est bête, on l'a épuisé à monter en hélicoptère ou à nager avec les dauphins ». Et Annick Ernoux, que vous connaissez peut-être, qui est cette femme magnifique qui a créé à la fois « Choisir l'espoir » et « Apprivoiser l'absence », disait, en parlant de Géraldine décédée à 13 ans, « j'ai été happée par cette question des rêves d'enfants ». Alors que, si je me souviens bien, Géraldine, avant de mourir, me disait « Maman, je rêve de faire des carottes râpées ». Et vous voyez la modestie du rêve et de l'attente. Et disait-elle « je ne mettais pas ça à la hauteur des rêves ». que d'autres, et notamment des associations, avaient pu imaginer pour elle. Et je trouve intéressant aussi pour des gens beaucoup plus âgés que des jeunes adolescents, de faire en sorte que ce qu'il est possible de faire dans la vie qui reste soit de l'ordre de ce qui fait sens, plaisir à celui qui s'est proposé, demandé ou qui le demande lui-même. Je voudrais dire aussi combien cette parole sur la finitude, sur ce que l'on aime dans la vie et ce que l'on a à dire de la mort peut vraiment être le fait de partenaires non soignants. Et j'ai pu vérifier en 25 ans que je travaille sur ces questions combien le rôle de l'enseignant, de l'artiste, du bénévole à l'hôpital ou en institution est absolument essentiel. Il est essentiel, me dit-on, parce que il nous parle du monde. Et il nous amène le monde, et mon monde est partageable. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et donc, ça permet de maintenir un lien à la culture, au sens. Et puis, ça rend souvent possible la symbolisation de la finitude, notamment si on pense à des enfants et des adolescents. C'est souvent dans l'atelier poésie ou l'écriture de chansons qu'on fait avec l'enseignant qu'il va être possible de dire au revoir à sa manière, là où, d'une certaine manière, personne ne peut l'entendre parce qu'on s'effondre à entendre cet au revoir. Cheminer au rythme juste, c'est vraiment ne pas monter dans l'hélicoptère, pas forcément nager avec les dauphins, ouais, ce type de projet. C'est, me semble-t-il, avec toutes les formes du prendre soin, ce qu'il y a évidemment à essayer de rendre possible à l'hôpital, mais aussi au domicile, à maintenir au domicile ou en EHPAD. Mais évidemment, tout ça est un peu compliqué dans les EHPAD avec cette question de l'organisation du travail et de l'intensification de l'activité. Mais il y a tout de même peut-être à dire ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Et cette question du rythme juste, hein, qui nous renvoie à la question du temps, renvoie au takt, qui est en allemand aussi avec un K, un terme de musique, hein, qui renvoie au rythme en musique. C'est vraiment ce rythme juste, cet accordage, pas facile à trouver, mais qu'il est intéressant de découvrir. C'est ce qui va permettre de maintenir le sentiment de continuité de soi pour celui qui est accompagné, et puis pour celui qui accompagne, avoir l'impression qu'effectivement, cette partie du chemin, on l'a traversée au même rythme. L'attention à la douleur, je crois qu'elle est tout à fait essentielle. Je l'ai très bien vue dans cette étude sur plaisir des vins et des nourritures. Il était absolument illusoire et sans doute même violent et insupportable à des gens perclus de douleur et avec une bouche tellement abîmée que leur proposer à manger ou à boire, notamment avec les tanins du vin qui peuvent être rudes lorsque les muqueuses sont abîmées, il aurait été parfaitement déplacé de proposer de boire et de manger encore ce que l'on a toujours aimé. Il a donc fallu s'occuper de la douleur, il a fallu soulager, réparer ce qui pouvait l'être pour que ce soit possible. Et puis l'attention au tragique, qui manque beaucoup. Parce que ça nous est difficile quand on accompagne, soit bénévolement, soit de façon professionnelle, ça nous est difficile d'y être confronté sans possibilité de reprise, d'échange avec d'autres. Et c'est cependant absolument essentiel, soulager, consoler, et pour cela donc il ne faut pas laisser seul, sans chercher à faire taire. Autant je pense qu'il est essentiel de soulager la douleur, mais faire taire la douleur et faire dormir pour que le tragique ne puisse plus être évoqué est vraiment quelque chose qui mérite d'être réfléchi davantage que ça l'est. Nous étions dans le temps d'avant, là la mort est arrivée et il s'agit encore de prendre du temps. Et les rites nous l'imposent, à la fois il faut s'organiser pour qu'ils aient lieu, mais le rite funéraire qui nous oblige à nous rendre à la cérémonie et donc à interrompre aussi le cours ordinaire de nos vies a une fonction tout à fait essentielle, c'est de pointer l'événement qui a lieu, qui a eu lieu, de poser des jalons à plusieurs autour de cet événement, et puis de circonscrire l'errance. Toutes les sociétés humaines ne cessent de dire quelle préoccupation majeure et quel effroi naît de l'errance des morts, c'est-à-dire ceux pour lesquels, la langue vernaculaire le dit toujours et souvent ainsi, pour lesquels on n'a pas pu faire les rites. Ne pas avoir pu faire les rites, ne pas avoir pu marquer l'événement, l'entourer de la vie symbolique et collective indispensable, fait que les morts ne sont pas à leur place. Et ils reviennent, alors dans un registre très psychopathologique aujourd'hui pour nous, tourmenter les vivants. Puis accompagné, dans ce moment où la mort est arrivée, c'est... accueillir et accueillir au long de tout au long d'un chemin qui va être souvent bien plus long qu'on ne l'imagine. Alors pour soi-même, la traversée du deuil est pleine de surprises. Et puis lorsque l'on accompagne des endeuillés, on est là aussi souvent tenté d'espérer que le chagrin s'efface, que la vie reprenne son cours. Et on est là souvent dans des dissonances, des désaccordages avec le rythme de l'autre. Ce que nous savons, donc, je l'évoquais avec l'errance, c'est que quand les rites n'ont pas lieu, les proches, mais aussi les soignants, les professionnels, ont à se débrouiller tout seuls avec ce qui s'est passé. Et c'est un changement d'état, toujours. Il n'est pas possible que ça n'ait pas d'effet, que ça n'introduise pas de changement. Et ce changement les bouleverse, mais parfois de manière très refoulée, hein, parce que ça ne peut pas se dire. Sans idéaliser le rite et ses fonctions, nous savons tout de même que le bon déroulement des rites, et particulièrement de ce rituel d'adieu, a une fonction essentielle, c'est d'aider à fixer la place de chacun. Alors nous ne faisons plus aujourd'hui ce que l'on a fait longtemps au Moyen-Âge, hein, traverser d'un pieu le corps du défunt pour être sûr qu'il soit fixé. On fait des prélèvements d'organes, c'est autre chose. Mais nous avons besoin, effectivement, de savoir où sont les morts et qu'ils sont bien morts pour s'autoriser à survivre à cet événement et à rester en vie. Et donc, quand les cérémonies n'ont pas pu avoir lieu, parce qu'on en a été privé, par exemple, je pense à toutes les situations d'exil, de génocide, de guerre, ou même dans une dimension moins tragique, lorsque ça n'a plus de sens, pour ceux qui les subissent du coup, hein, puisqu'ils ont vraiment l'impression de s'ennuyer, de perdre leur temps. Et je dis que les professionnels du funéraire savent très bien tout cela. Lorsque ces cérémonies n'ont pas de sens ou qu'elles n'ont pas pu avoir lieu, eh bien, et les psychiatres le savent aussi, cela va tourmenter très longtemps la vie psychique et la vie sociale des individus. Alors, les personnes les plus âgées, et il ne s'agit pas d'une grand-mère très vieille, et c'est une grand-mère qui vous parle, connaissent, bien que les grands-parents actuellement en France soient plutôt jeunes encore, mais cette valeur précieuse des rites. Et là, pour la situation d'une jeune mère que je suis allée écouter chez elle, un an après que son bébé soit décédé à l'âge de 4 mois, je voulais vous rapporter ce témoignage sur l'importance de socialiser et de symboliser. Heureusement, ma belle-mère est une forte tête. Moi, j'avais tellement de peine. Je voulais rien faire pour les obsèques. J'en avais parlé dans le service et les soignantes me disaient toutes « Vous avez raison ». Faites comme vous le sentez, ça ne regarde que vous. Mais ma belle-mère a dit, quoi, ne rien faire pour cette petite fille qu'on a tous tant aimée, jamais de la vie. Je m'occuperai de tout. Elle a été très chiante, m'a dit cette femme. Je m'occuperai de tout. J'achèterai le caveau, je paierai la pierre tombale, j'irai voir le curé. Cette petite, elle aura un enterrement et je m'engage à entretenir sa tombe. Et cette femme dit, heureusement qu'elle était là et heureusement qu'elle était une forte tête. Grâce à elle, dans tous ces mois de malheur, ce fut le plus beau jour. Et dans cette petite église, il y avait 400 personnes et elle en a été tout à fait bouleversée. Mais dans un contexte d'intimisation de la mort et du fait que la mort soit devenue une affaire strictement personnelle, eh bien, les soignantes, tout à fait bienveillante hein, et ne pensant évidemment pas mal faire, disait « faites comme vous le sentez ». Effectivement, c'est trop souvent ce qui s'entend en institution, alors que on s'expose à faire manquer à l'autre tout ce que nous sommes en train d'évoquer. Alors quand le temps a manqué, et puis après nous allons prendre du temps pour discuter, c'est indispensable, mais je rapporte ce qu'un agent funéraire des Bouches-du-Rhône m'indiquait dans le cadre de la mort des jeunes, une autre étude que j'ai menée après celle sur ce que j'allais entendre alors qu'ils étaient hospitalisés. Voilà ce que disait le responsable d'une agence funéraire. Quand les familles passent la porte, je sens et je sais tout de suite si elles ont eu le temps de se séparer doucement de leurs proches défunts ou si la mort a été brutale, accidentelle ou provoquée dans le cas d'un suicide, par exemple. Ceux-là sont abasourdis ou en colère quand les autres sont pleins de peine et de calme à la fois. Et moi, je me suis beaucoup servi de cela pour expliquer aux professionnels à l'hôpital ou en EHPAD combien c'était important de ne pas s'être précipité, de ne pas avoir dit « vite, vite, on choisit les pompes funèbres, vite, on enlève le corps de l'endroit où tout de même il est important qu'il réside encore un peu ». Ce fut pour chacun sa dernière résidence, en être expulsé très vite, certes. Il y en a d'autres à mettre dans ce lit et à la place. Mais nous savons maintenant, la psychodynamique du travail nous le montre, que dans cette précipitation à évacuer les morts, on fait des ravages évidemment pour les proches, mais on abîme beaucoup l'énergie qui permet de travailler pour les soignants, les professionnels. Donc il n'y a pas que pour les familles que ces décès où tout se précipite est évidemment ravageur. Il y a aussi cette précipitation qui peut concerner tous les morts d'ailleurs en institution lorsque on se dépêche comme si on ignorait la loi. La loi est bien plus lente dans le code de santé publique que ce qui s'effectue souvent très vite dans les institutions. On évacue, on expulse, on place loin cet événement pour justement ne pas considérer qu'il a eu lieu. Le temps long du deuil, je choisis la littérature pour l'évoquer. Nous sommes plutôt enclins à penser que plus la mort est violente et accidentelle, plus va être long et nécessairement long. Ce temps de symbolisation, d'interprétation, de compréhension, de traversée de cette épreuve, même si ça ne passe pas. Et j'aime beaucoup, beaucoup cet extrait du dernier livre de Bernard Chambaz. C'est autobiographique. Bernard Chambaz avait écrit, il y a 19 ans, un livre magnifique, Martin cet été, sur la mort de son fils, mort accidentelle de son fils. Et donc en 2014, il écrit ceci, 19 ans ont passé, le deuil ne passe pas. Si le chagrin s'est atténué, il reste vrillé. Pas question de faire notre deuil, de s'y faire, comme si nous devrions renoncer à ce qui fut. Comme s'il y avait un temps pour ça, le deuil, et un temps pour passer à autre chose. Ça continue. Penser à lui, ce n'est pas seulement penser à lui hier, c'est penser à lui maintenant, c'est le maintenir en vie, en pure perte ici et à présent, alors même qu'il n'est plus là, et se retourner avec la même impuissance que dans les mythes, mais éprouver le vertige de le voir malgré tout, un instant, à jamais souriant. Que nous demeurions inconsolables n'enlève rien à notre effort de tenir tête à la tristesse et à ma volonté d'écrire un livre joyeux. Je crois que l'écrivain trouve effectivement les mots pour ce qui est souvent de l'ordre de l'indicible. Donc je vais m'arrêter là avec la littérature. Littérature qui nous offre donc toutes ces voies qui continuent à nous offrir une pensée vivifiante face à la fois à l'énigme de notre présence au monde, puis à celle de notre disparition. Et puis s'arrêter aussi avec les voies multiples. Il n'y a pas qu'une seule manière de mourir et d'envisager ce dernier temps de la vie terrestre. Ces voies multiples par lesquelles les sociétés ont donné des réponses aux questions que le fait d'être vulnérable, souffrant et mortel pose à toute l'humanité et à chaque homme. Et puis j'écrivais devant mon ordinateur qu'il était temps d'échanger parce que je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de diapos et je vous remercie infiniment.